Bon, alors on va reprendre cette deuxième journée des estivales qui va être consacrée à l'ouvrage le plus récent que François a publié sur la filière du livre. Le précédent s'appelait le livre Mutation, c'était comment le titre ? D'une industrie culturelle. Celui-ci s'appelle La filière du livre en danger. Il reprend pour une grande partie toute l'histoire, ça je trouve que c'est vraiment intéressant, de l'édition, des processus, de la diffusion et de la distribution, avec un ajout important sur le basculement qui nous concerne tous, sur le numérique. Donc ça, là-dessus, je vais te laisser parler. Juste une petite anecdote, quand même. Quand tu étais intervenu en 2008, je pense, sur l'ouvrage précédent, j'avais demandé que tu nous parles un peu de la filière numérique. Tu m'avais dit, oh, je vais en parler une demi-heure. C'était en 2008. En 2013, on ne veut plus en parler une demi-heure. Donc, pour rassurer aussi Myriam, ça n'est pas un discours catastrophiste. Hier, on n'a pas entendu de discours catastrophiste. Chez Chamballon, la dame qui est au bout, là. Mais une vision un peu de recul et un peu prospective sur la filière du livre. Je te laisse la parole. François, qui est économiste au ministère de la Culture, est un allié, un partenaire, un complice, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans le cadre de ces estivales. Je reprendrai ce qu'en vient de dire Thierry. Effectivement, l'ouvrage qui est sorti le mois dernier, pour sa quatrième édition, s'appelle « Le livre, une filière en danger », avec bien sûr un point d'interrogation. Alors qu'effectivement, les éditions précédentes, depuis les années 90, s'efforçaient de suivre précisément les mutations de cette filière. Je ne vous les rappelle pas, hein, vous les connaissez, ça va de l'implantation du la place que le livre prend dans la grande distribution, dans les hyper super, à la concentration éditoriale. Ça va de la montée en puissance et au déclin de Françoisir jusqu'à l'informatisation rapide des métiers du livre et des progrès du marketing dans une rationalisation des pratiques. Voilà, tout ça vous le connaissez, tout ça j'avais qualifié ça de mutation. Alors pourquoi faire le saut, pourquoi parler aujourd'hui, s'interroger aujourd'hui sur une filière en danger? Alors on peut toujours penser, et c'est pas totalement faux, qu'il y a un effet de surlignage promotionnel, dont je partage la responsabilité avec l'éditeur, mais je crois aussi que les mutations que l'on connaît aujourd'hui sont certainement plus fortes et plus fondamentales que celles qu'on a connues précédemment. Je dis les choses prudemment parce que dans le domaine du livre, tout ce qui est la notion de changement ou de crise, la fameuse crise du livre, c'est toujours quelque chose d'assez difficile à manier. Je vous rappellerai, mais je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler la fameuse formule d'Henri Bayer en 1904, qui disait que la crise du livre est une maladie chronique qui tient à sa nature même. Il en souffre depuis sa naissance, en vit et en vivra, il n'en guérira pas, il n'en mourra pas, il est éternel. Voilà, c'est bien balancé. Ce qui montre bien que là, il y a quelque chose de compliqué, puisque normalement, la notion de crise, c'est quelque chose qui a à voir avec un changement radical, un moment particulier, crucial, où l'après n'est plus comme l'avant. comment peut-il y avoir une crise qui soit aussi permanente et durable? La question se pose sur le livre et se poserait aussi sur beaucoup d'autres industries culturelles, avec chacun leurs spécificités, mais c'est vrai pour le disque, c'est vrai aussi pour le cinéma, qui sont toujours perçus quelque part comme étant en crise. Alors, ce que je vous propose ce matin, en une petite heure, qui nous permettra d'avoir peut-être un peu de temps de discussion et de réaction, c'est de revenir un petit peu sur ce qui est, de mon point de vue, les fondements du fonctionnement du livre aujourd'hui, de la filière, de ce mode d'expression par le livre, et puis après pour voir comment le numérique a modifié, pour voir ensuite comment le numérique a depuis longtemps modifié la donne. Et là, effectivement, contrairement à 2008, on ne peut plus penser le livre numérique, plutôt numérisé pour l'instant, à lui allouer une demi-heure, hein, un temps particulier. Non, l'impact du numérique, il est global, il est partout, sur tous les aspects de la filière du livre. C'est donc il y a donc là de multiples impacts et de véritables remises en cause. Alors, je souhaitais aussi, et je crois que c'était un petit peu ce que souhaitaient les organisateurs, avoir une approche qui soit pas plate, au sens où elle prenne parti sur la question un peu fondamentale qui est la suivante: mais c'est quoi une filière d'industrie culturelle qui fonctionne bien? Alors, à cet égard, j'ai indiqué que j'essayais de faire une économie politique du livre. Hein, c'était ce que Thierry m'avait demandé pour une précédente intervention, et ça me paraissait intéressant d'y revenir et de s'inscrire dans cette démarche-là. Pourquoi ? Des économies politiques dans la production des sciences sociales et des essais, il y en a beaucoup, des économies politiques. Un rapide effort simplement de mémoire permettait d'en retrouver au moins 4 ou 5. Une économie politique de la vigilance chez Oury, de la vitesse chez Virilio, du risque chez Ulrich Beck, et voire de la complexité chez Edgar Morin. Je pense que c'est bien l'analyse qu'il en fait. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à chaque fois, eh bien, il y a un phénomène dont on considère qu'il travaille de manière significative toute la société. Et on s'en sert comme analyseur pour comprendre les choses. C'est un peu la société au miroir de la complexité, du risque, etc. Peut-on faire la chose avec le livre? La société au travers du livre? Paradoxalement, le livre est trop présent à la société pour que ça soit très facile. En effet, je crois que c'est délicat de le faire parce que, d'une manière ou d'une autre, on peut considérer que le monde des livres, c'est finalement un miroir déformant, certes, mais néanmoins assez fidèle du monde, de notre monde tel qu'il existe, avec ses courants de pensée, ses activités, ses peurs, ses centres d'intérêt, etc., ses imaginaires, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire une économie politique du livre au sens où on l'a indiqué, dans le cas de la vigilance, de la vitesse ou de la complexité. Par contre, je crois que on peut faire le choix, prendre le parti d'apprécier le fonctionnement et l'évolution de la filière du livre à l'aune de deux phénomènes liés d'ailleurs. Le premier, c'est: est-ce qu'il y a effectivement un renouvellement permanent du mode d'expression par le livre dans le temps? Et pour le deuxième, est-ce que se maintient, est-ce que perdure une capacité du livre à dire et à penser le monde au travers de la littérature, de ce que l'on appelle communément la littérature de création, c'est-à-dire à la fois la fiction, mais aussi les essais et les sciences humaines. Voilà. C'est dans ce sens-là que je me permets d'intituler modestement, sous-titrer modestement ce que je vous dis, un essai d'économie politique du livre, et ceci transparaîtra effectivement à la fois dans les analyses et dans la conclusion. Je voudrais d'abord revenir sur ce qui fonde le monde du livre, hein, du point de vue de son fonctionnement, c'est-à-dire les deux concepts de filière et de mode d'expression. La filière, je rappelle très rapidement, c'est un terme d'origine économique, plus exactement d'économie industrielle, c'est l'ensemble articulé et orienté, hein, des différentes activités qui se succèdent et qui vont de la conception des produits à leur mise sur le marché et au consommateur final. J'emploie délibérément des termes généraux et économiques, mais qui s'appliquent évidemment au livre. Donc vous voyez très bien la relation auteur-éditeur, diffuseur, distributeur, vente et vente en magasin, librairie, et atteindre les lecteurs, les acheteurs et les lecteurs. Ce qui me paraît important, c'est que la notion de filière, c'est une notion qui est très très riche et qui est extrêmement utile à prendre en considération. J'en rappelle quatre de ces caractéristiques. La première, c'est que c'est un lieu de solidarité obligée entre tous les partenaires. Ça se comprend facilement. On ne peut pas en retirer un, ça n'a évidemment pas de sens. C'est aussi un lieu de partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire où chacun des acteurs cherche à se faire rémunérer correctement sa contribution à l'avancée du livre le long de la filière. Hein. Et ceci se traduit bien en particulier dans la remontée des recettes et le partage du prix public du livre entre tous les intervenants, avec ce que là suppose de négociations, voire de conflits en la matière. C'est aussi un lieu, et on le dit moins, c'est aussi un lieu où s'articulent des prises de risque. J'y reviendrai tout à l'heure, le livre étant produit de contenu, son économie, c'est une économie de contenu, donc du risque, de l'incertitude et du risque. Eh bien, il y a dans cette filière un risque initial qui est celui de l'éditeur, un risque primaire qui est celui de l'éditeur, et à partir de ce risque-là, d'autres acteurs peuvent ou non prendre des risques qui sont plus ou moins articulés à celui de l'éditeur. On voit très bien que c'est le cas pour l'auteur, rémunéré en fonction du nombre d'exemplaires vendus. On voit très bien que c'est évidemment pas le cas, par exemple, de l'imprimeur, qui lui donne sa facture, quel que soit l'avenir du livre en termes commerciaux, etc. Je n'insiste pas, mais vous voyez la logique. Je voudrais insister aussi sur le fait que la filière, c'est aussi le lieu d'une culture commune, ou dit autrement, la filière, dans son fonctionnement, baigne un petit peu dans une culture commune qui lui sert, qui est un petit peu à la filière ce qu'est l'huile d'un carter pour les bielles d'un moteur. Excusez le trivial de la comparaison, mais je crois que c'est important parce que ça fonde la capacité à se comprendre d'une profession, d'une activité à l'autre, de manière implicite, sans avoir besoin d'expliciter les choses. Et de manière très, très normale, très, très logique, très naturelle, c'est aussi un lieu où peuvent se développer des démarches d'interprofessionnalité, c'est-à-dire des relations voulues de solidarité entre acteurs au nom de leurs intérêts communs et des intérêts de l'ensemble de la filière. Et on voit bien que cette notion d'interprofessionnalité, elle est importante, évidemment, en particulier entre les éditeurs et les libraires. Voilà. Et enfin, la filière, c'est aussi un lieu de possible de régulation, parce que ce que font les pouvoirs publics, c'est avoir un espèce de dialogue permanent, hein, une espèce de partenariat tutélaire avec les acteurs de la filière, de manière à faire toujours le point sur la situation de cette filière, la situation du livre, les évolutions, et éventuellement décider plus ou moins en commun, hein, de ce que l'on peut faire pour améliorer la situation. Voilà. Après la notion de filière, je voudrais insister sur la notion de mode d'expression. Mode d'expression, pour moi, c'est par rapport à des contraintes techniques, comment, quelles sont les potentialités et quelles sont les contraintes pour forger des contenus. Alors, des modes d'expression artistiques, culturels, il y en a énormément, des modes d'expression chorégraphiques, théâtrales, musicales, etc., cinématographiques, télévisuels, les deux sont différents. Et il y a un mode d'expression par le livre qui ne se réduit pas à un mode d'expression littéraire, hein, et ce mode d'expression par le livre, la preuve de son existence, elle est tout simplement avérée par le fait qu'il existait en France, mais qu'il existe encore dans de nombreux pays, un prix des plus beaux livres. Et ce n'est pas du tout pour les beaux livres au sens où on entend cette catégorie d'ouvrages, mais c'est un prix qui vaut pour toutes les catégories d'ouvrages, y compris par exemple des ouvrages de poche. Donc c'est plutôt quelque chose qui sanctionne et qui a à voir avec la capacité à bien articuler de la manière les plus pertinentes ou harmonieuses possibles, et les termes que vous voulez, la forme et le fond. Voilà. Ce que je voudrais souligner, c'est que le mode d'expression par le livre a un fonctionnement systémique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tous les acteurs qui émargent au système du livre, au mode d'expression par le livre, il y a bien sûr tous ceux de la filière que j'ai évoqués, mais il y en a bien d'autres, à commencer par ceux qui sont dans des fonctions... Excusez-moi. De conservation... Oui. De conservation-diffusion, les bibliothèques, bien sûr, tous ceux qui sont dans des fonctions d'animation, tous ceux qui sont dans des fonctions de recherche, tous ceux qui sont des fonctions d'animation. Et ceux-ci forment un ensemble extrêmement important et un véritable système du livre avec des acteurs qui partagent tous, peu ou prou, les valeurs, un certain nombre de valeurs et de références et d'éléments de culture communs d'une culture du livre. J'en ai terminé sur ces deux notions de filière et de mode d'expression. Je les ai introduites là parce que ça me semble avoir été des fondamentaux jusqu'ici, mais des fondamentaux qui vont être, et j'anticipe sur la suite, qui vont être interrogés, qui sont aujourd'hui interrogés. Les troisièmes fondamentaux que je voulais évoquer, c'est comment fonctionne cette économie singulière qui est l'économie du livre. Alors, je vais aller là assez vite. Rappeler que la première singularité de la filière du livre, c'est un paradoxe qui est que le livre semble immobile, au sens où on parle, les mutations dont j'ai parlé tout à l'heure, phénomènes de concentration, des phénomènes de best-seller, des phénomènes de littérature populaire à petit prix. On peut considérer qu'ils ont pris une ampleur exceptionnelle dans les dernières décennies. Or, si l'on fait un retour historique rapide jusqu'au milieu du 19e siècle, on s'aperçoit que ces types de fonctionnement, ces types de logiques ont fonctionné d'ores et déjà dans toute la vie du livre moderne, hein, depuis le milieu du 19e siècle. Comment expliquer ça ? Livre immobile ou pas ? Comment comprendre ça ? Ben pour le comprendre, je crois qu'il faut insister sur le fait que le livre est une industrie culturelle. Le terme industrie culturelle, maintenant, est complètement banalisé. Hein. Or, il n'était pas banal quand il a été, bien sûr, forgé par Adorno et aussi remis en piste dans les années 70. Pourquoi ? Parce que il y a dans l'industrie culturelle, il y a cette conflit possible art, argent, commerce, culture, etc. Et depuis, on l'a complètement utilisé, banalisé. Donc les mots, c'est un petit peu comme les galets dans la mer, ça se roule et ça perd de leur aspérité. Mais il y avait une charge de conflictualité qui était au départ dans le terme et qui reste dans la réalité de l'ensemble des industries culturelles et de celle du livre en particulier. Je m'explique rapidement. Il y a deux logiques qui gouvernent simultanément les industries culturelles et en particulier celle du livre. La première, la logique habituelle industrielle que vous connaissez bien, qui est celle des produits de grande diffusion et de grande consommation, et qui consiste à dire, bien, à la limite, il vaut mieux peu de produits qui se vendent vite, bien, en grande quantité. Logique tout à fait légitime, logique qui gouverne d'ailleurs l'ensemble, hein, comme je viens de le dire, l'ensemble des produits de grande consommation. Et puis à côté de cela, il y a une autre logique qui existe dans toutes les industries culturelles, et en particulier celle du livre, qui est une logique, appelons-la artisanale, entre guillemets, mais qui consiste à dire, bien, l'important, c'est de pouvoir en permanence essayer de faire des choses nouvelles, trouver des tons nouveaux, des parties nouveaux, des manières nouvelles de s'exprimer et des nouveaux contenus. Et on voit bien que ces deux logiques-là, on le sent bien, sont profondément contradictoires. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'elles sont contradictoires, mais en même temps présentes structurellement l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les configurations thèse, antithèse, synthèse. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça. Les deux logiques doivent être en permanence, être assumés en permanence, en particulier par les professionnels et par l'ensemble des acteurs de la filière. Et d'ailleurs, ceci se perçoit très bien dans la filière du livre elle-même, qui est un mélange assez intéressant, cette fameuse chaîne du livre, un mélange assez intéressant, d'activités qui sont plutôt gouvernées par la logique des contenus, ce que j'ai appelé la logique des contenus, c'est clairement l'édition, c'est clairement la librairie, constituer un catalogue, construire un catalogue, constituer un assortiment, il faut bien qu'on est dans des logiques de contenu, de savoir-faire artisanal, et puis de l'autre côté, des activités qui sont, elles, de nature beaucoup plus industrielle, sans parler des arts graphiques, parlons au moins de la distribution qui, est profondément industrielle et a imprimé une marque industrielle à cette filière et à ses évolutions. Voilà ce que je voulais rappeler là. On peut le dire en un mot, enfin avec des formules, j'en propose deux. Dire que l'édition, c'est un artisanat d'industrie, je crois que c'est quelqu'un a utilisé la formule, vous voyez, pour ramasser cette contradiction, ou simplement rappeler la formule d'Antoine Gallimard qui disait que on était dans une industrie de prototypes. Et là, la formule est particulièrement parlante parce qu'effectivement, un prototype, c'est évidemment pas fait pour être multiplié, par définition. Deuxième fondamental de cette économie singulière, c'est le fait qu'on est face à une économie, à des contenus, donc que tous les contenus sont fondamentalement différents les uns des autres, fût-ce de manière très faible et très limitée. Mais c'est bien cela, il y a une unicité fondamentale des contenus, ça se vérifie. Vous allez dans une librairie, vous cherchez sur le rayonnage d'une bibliothèque des ouvrages, un ouvrage précis que vous ne trouvez pas. Un bon professionnel vous en propose un autre en disant, voilà, ça peut éventuellement vous intéresser parce que c'est proche d'eux. Ça ne fera l'affaire que faute de mieux. Hein. Donc, unicité fondamentale des contenus, mais qui n'empêche pas d'éventuelle substituabilité. Je ne vais pas insister énormément, mais simplement dire que ça va de pair avec le fait que le monde des livres, c'est un espace avec vraisemblablement une infinité de dimensions. Un espace extrêmement vaste où, au-delà, effectivement, des dimensions physiques, matérielles d'un livre, celles énumérées que vous retrouvez dans une fiche de fabrication, eh bien, au-delà, il y a la multiplicité des dimensions pour caractériser les contenus et l'extrême diversité des contenus des livres. Ça veut dire aussi que, on peut regarder l'idée que faire un livre, c'est une démarche qui consiste non pas à énumérer successivement toutes les dimensions possibles du livre, mais c'est plutôt essayer de les rassembler et de les gérer d'un seul mouvement, dans une démarche qui demande de l'expérience, qui demande du savoir-faire, et on retrouve là la dimension artisanale que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. J'insisterai sur un dernier point, c'est que les livres, sont-ils concurrents entre eux? Oui et non. Souvent, très peu, parce que, effectivement, dans la multiplicité des livres, dans l'extrême hétérogénéité des livres qui sont de nature très différente, très éloignés les uns des autres dans l'espace des livres, ne sont pas en concurrence. Un livre de poésie avec un guide pratique, évidemment, ne sont pas en concurrence, sauf éventuellement pour vous, en termes d'achat, hein, si vous êtes tenté par l'un et l'autre au même moment, dans le même mouvement, dans une librairie. Donc, les livres ne sont en général pas en concurrence et sont quelque peu protégés de la concurrence aussi, des ouvrages qui leur sont plus proches, par cette espèce de petit monopole dont ils disposent, au moins au départ, avant d'être éventuellement imités. J'ai évoqué ce qui était ce que pouvait être faire un livre, peut-être dans cette manière de voir les choses dans l'espace des livres, peut-être peut-on donner une définition d'être éditeur. Être éditeur, on peut le dire comme ça, je pense, c'est s'inscrire de manière visible et repérable dans l'espace des livres. Et c'est pas pour rien que c'est la marque, une maison d'édition, un catalogue éditorial a atteint un palier, un succès, le jour où, effectivement, elle est repérable, de même, j'ose l'analogie, la métaphore, de même qu'une constellation est visible dans l'espace sidéral, eh bien, un catalogue éditorial, il est visible, il est repérable dans l'espace des livres pour les lecteurs, pour les professionnels, etc. Et je me rappelle, formule, une anecdote, c'était Anne-Marie Métellier qui disait qu'elle avait senti qu'elle avait franchi un cap le jour où dans les travées du Salon du Livre, elle avait entendu quelqu'un dire « Ah, ça, c'est un bouquin pour Métellier ». Montrait bien que elle était repérable avec sa spécificité, la spécificité de son label. Alors, qu'en est-il de la concurrence entre les éditeurs? Je suis économiste, donc c'est un des fondements de regarder comment se passe la concurrence. La concurrence, elle est rarement frontale. D'ailleurs, dans toute l'économie, la concurrence est rarement frontale, parce que la pire des choses, c'est la concurrence pure et parfaite. Si c'était ça, dans le cas de la concurrence pure et parfaite, sortent immédiatement du marché ceux qui ont des prix trop élevés. Donc c'est terrible comme sanction. Donc tout le travail des économistes, des entreprises, des entrepreneurs, c'est de ruser avec la concurrence, de manière à être suffisamment concurrent pour que ça permette d'avoir des prix et d'éviter des prix pas trop élevés et d'éviter des rentes, mais en même temps de ne pas affronter la dureté de la concurrence pure et parfaite. Et l'autorité de la concurrence ne fait pas autre chose, les autorités de concurrence ne font pas autre chose que vérifier que la concurrence n'est pas trop faussée. Alors, concurrence entre les éditeurs, on la voit très rarement, dans quelques cas très précis, la concurrence entre les éditeurs se produire par exemple sur un nouveau programme scolaire. Alors là, on voit bien la concurrence entre quelques éditeurs qui cherche à obtenir ce marché. C'est concurrence aussi quand un grand auteur tombe dans le domaine public. On l'a vu pour Proust, on l'a vu plus récemment pour Freud. Alors effectivement, là, il y a une concurrence pour essayer d'éditer quand l'auteur est tombé dans le domaine public. Voilà. Mais en général, on n'est pas dans une situation de concurrence entre les éditeurs. On est dans une posture bien différente et qui est souvent peu mise en évidence, mais que je crois qu'il est utile d'évoquer. C'est que quand on est éditeur, et comme éditeur le confirmeront ou l'infirmeront, on a toujours, par rapport à ce qui est sur le marché, il y a toujours la possibilité d'innover et de faire quelque chose de différent. Fût-ce parfois, de manière très marginale ou très peu signifiante. Mais il y a toujours moyen, quand on est dans une industrie de contenu, dans une économie de contenu, de sortir de la concurrence par l'innovation. Et d'ailleurs, ceci renvoie à tout un discours de la professionnalité éditoriale qui est extrêmement prolixe sur le côté innovateur. Et puis, en même temps, il y a une autre tendance, simultanément, qui est récurrente aussi à l'imitation. Je m'explique. C'est quand apparaît le succès, quelque part, chez un éditeur ou chez un de ses confrères, alors l'idée que, eh bien, peut-être est-on à proximité d'un filon du succès et que ça mérite, effectivement, de creuser à proximité pour, effectivement, en tirer parti. Et ça, vous voyez comme nombre de collections ont pu naître. Par exemple, le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben Jelloun, par exemple, ça donnait lieu à une série d'ouvrages du même type sur les dictionnaires amoureux. Ça a été effectivement des succès initiaux, ont donné lieu à ce qu'on appellerait ailleurs des suites, mais presque, enfin là c'est vraiment des collections, etc. Et donc je crois que ce qui caractérise ce qui se passe entre les éditeurs qui sont sur un même champ, s'ils sont sur la même catégorie d'ouvrage, c'est ça, c'est ce jeu extrêmement particulier qui consiste à la fois à toujours essayer éventuellement d'innover, jouer sur l'innovation et le nouveau, et puis en même temps toujours être extrêmement attentif à ce qui peut être des poches de succès sur lesquelles il faut absolument il est pertinent de se mettre. Et ceci fait en sorte que finalement ce qui se joue, c'est un peu comment dire, une sorte de guerre de mouvement qui se joue entre les éditeurs et qui déplace constamment le jeu de la compétition entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, ceci est confirmé par un certain nombre d'éditeurs. Je crois que c'est François Gesse qui parlait de reproculture, de livres clones, pour évoquer effectivement ce mouvement d'accumulation sur certains thèmes ou certains types d'ouvrages qui, à un moment, semblent pouvoir recueillir le succès. Un dernier mot pour dire que cette compétition entre les éditeurs, elle est oligopolistique. J'emploie le terme économique pour dire simplement que elle ne concerne pas tous les éditeurs. Elle concerne uniquement ceux qui sont déjà bien implantés sur ce secteur. Parce que s'implanter sur un secteur éditorial, c'est un travail qui demande du temps, des investissements et du temps. Pour trouver des auteurs, pour se construire une image, etc. Autant il est facile pour un éditeur de publier un ouvrage dans un domaine qui lui est complètement étranger, pour peu qu'un manuscrit lui tombe sous la main, c'est pas pour ça que ça en fera un éditeur qui compte dans ce secteur-là. Ces positions se construisent. Et donc il y a qu'un nombre limité d'éditeurs qui comptent dans chaque catégorie catégorie d'ouvrage. Et d'ailleurs, même les plus grands groupes ont une couverture assez contrastée de l'ensemble des secteurs éditoriaux. Et puis enfin, ce que je voudrais rappeler pour terminer sur cette économie singulière qu'est l'économie du livre et de l'édition, c'est que les économistes raisonnent très souvent sur les ressources rares. L'allocation, l'économie, c'est paraît-il la science de l'allocation des ressources rares. Quelles ressources rares pour les éditeurs? De mon point de vue, il y en a deux. C'est d'une part les bons manuscrits, ou tout au moins les bonnes idées de livres, les bons qui peuvent être pertinentes, voire rentables. Et puis, deuxième ressource rare, celle de la place dans les médias et dans tout le système de promotion globalement, qui va des médias jusqu'à la table des libraires, en passant par leur vitrine, pour parler des livres. Et je crois que ce sont deux ressources rares, et dont on verra tout à l'heure qu'avec l'augmentation incessante de la production, eh bien, c'est des ressources qui se font de plus en plus rares. Un mot, justement, dans ces conditions sur la concentration dans l'édition, puisque c'est un phénomène massif qui a eu lieu en particulier dans tout l'après-guerre, de montée en puissance de deux grands groupes, Hachette et Vivendi, pour faire vite, qui ont peu à peu transformé cette édition qui était un secteur de maison moyenne. Un mot sur la concentration, simplement pour dire que là encore il y a un paradoxe de la concentration, parce que alors que on dit que la concentration s'est accrue en permanence, eh bien quand vous la regardez, elle est très forte depuis longtemps et elle évolue peu. Pourquoi? Tout simplement parce que la concentration se fait en termes capitalistiques, par rachat. Par contre, elle ne donne rarement lieu, ça peut arriver mais c'est plus rare, à ce que j'appellerais du mécano-éditorial, c'est-à-dire à la disparition de maisons, au regroupement de catalogues, etc. C'est pas un jeu qui est très facile à jouer que le mécano-éditorial. Les responsables des grands groupes, d'ailleurs, le disent très clairement aussi. Alors, se pose la question, effectivement, pour les éditeurs, de pourquoi grandir? Pourquoi est-ce que on peut... Quel est le moteur de cette concentration? Pourquoi racheter, etc. Pourquoi grandir? Il y a des raisons, en général, dans l'économie en général, pour grandir. La première, c'est que ça permet éventuellement de sauter des barrières à l'entrée qui seraient importantes pour rentrer dans l'activité. Vous voyez bien, si vous voulez vous mettre dans le raffinage pétrolier, il faut vous construire une raffinerie. Vous voyez des centaines de millions d'euros nécessaires pour ça. Là, il y a une barrière à l'entrée. Encore, on peut vouloir grandir pour avoir des économies d'échelle. Économie d'échelle, ça veut dire qu'on essaye, on est plus efficace quand on produit beaucoup plutôt que lorsque l'on produit peu. Alors, si vous regardez ces deux critères dans le cas du livre et de l'édition, ça ne marche pas. D'abord, il n'y a pas véritablement de barrière à l'entrée, même s'il y a des livres ou des projets éditoriaux lourds. Mais vous savez très bien comme moi que les coûts pour produire et sortir un livre, c'est plutôt de l'ordre des milliers d'euros. L'ordre de grandeur, c'est le millier d'euros. C'est l'ordre de grandeur le plus faible dans toutes les autres industries culturelles par rapport aux jeux vidéo et bien sûr au cinéma. Économie d'échelle ? Certainement pas, parce que l'édition, c'est plutôt un travail qui est fondé sur le savoir-faire, les petites équipes qu'il s'agit d'animer, et c'est pas en rassemblant des bataillons de personnels éditoriaux que l'on sera plus efficace, au contraire. C'est d'ailleurs l'un des problèmes organisationnels et de management des grands groupes que de savoir comment manager 15, 20 maisons ensemble, équipes éditoriales ensemble. Et ça n'a évidemment rien d'évident. Alors, la vraie raison de la croissance et de l'augmentation de la taille dans l'édition, elle est de deux côtés. Elle est d'une part, pour permettre d'accéder à la distribution dans des conditions efficaces. Et ça, effectivement, pour avoir un appareil de distribution autonome France entière efficace et pertinent, on a vu dans les décennies depuis 71 pour Gallimard, Flammarion l'avait fait avant, Le Seuil le fera après, ça a été des investissements extrêmement lourds à consentir pour pouvoir avoir une distribution autonome. Et donc ça, c'est une raison pour grandir, et en particulier les gens du Seuil l'expliquaient bien en disant on n'a pas tout à fait la taille, et en termes de volume de production et en termes de succès aussi, d'ouvrages à succès en partie qui peuvent nourrir du poche, pour être effectivement suffisamment pertinent en matière de distribution autonome, être suffisamment efficace. Et là, s'il n'y a pas d'économie d'échelle dans l'édition, il y en a. Alors là, ô combien dans la distribution, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la deuxième raison pour laquelle on va pouvoir, il peut être pertinent de grandir, c'est que, bien sûr, on améliore ses rapports de force pour accéder à la ressource des auteurs et des ouvrages, et accéder effectivement à la ressource rare de la promotion des livres. Et ça paraît évidemment, évidemment très, très, très évident. Il y a un dernier trait que je voulais souligner, qui s'appelle la préférence pour la valeur externe. C'est pour la croissance externe. Je m'explique, ça paraît du jargon économique, mais c'est en fait un hommage à l'édition et au travail des éditeurs. Pour grandir, vous avez deux solutions. Vous avez soit vous retroussez vos manches, vous investissez, vous êtes éditeur, vous prenez contact avec des gens, des auteurs possibles, des directeurs de collection possibles, des conseillers éditoriaux, enfin bon, tout ce travail évidemment de lien avec ce milieu, cette ressource rare et cette matière première extrêmement complexe à gérer et à manager qu'est celle des auteurs, possible, existant ou possible. Ça, c'est la première solution. Nous, on dit que c'est la croissance interne. Voilà. Et puis, l'autre possibilité, c'est si, effectivement, pour une raison ou une autre, un jour, Gallimard se trouve à vendre, eh bien, racheter Gallimard. Par exemple, racheter des fonds déjà existants. Eh bien, le point sur lequel je voulais insister, c'est que, effectivement, il y a une préférence pour la croissance externe. C'est-à-dire que, quand on vend les entreprises, en général, n'importe quelle entreprise, il y a des ratios. En fonction, on vend une entreprise avec un multiplicateur sur son chiffre d'affaires ou son excédent brut d'exploitation. Eh bien, pour l'édition, de manière dans le monde entier, ces ratios-là, ces multiplicateurs-là, sont plus importants pour l'édition que pour les entreprises en général, le commun des entreprises. Ça veut dire quoi, ça ? Ben, c'est la monétisation, je dirais, de la valeur du risque, de la prise de risque engagée par l'éditeur pour construire petit à petit un catalogue. Voilà. Et c'est donc la reconnaissance du travail éditorial. Voilà. Conclusion toute provisoire sur ces aspects-là, c'est qu'on est, rappelons-le, on est dans une économie de contenu, donc incertitude sur le fait si ça sera apprécié ou non par le public. De l'incertitude aussi parce que, est-ce que vous allez y trouver de l'intérêt à lire ce livre ? On est dans le cadre de ce qu'on appelle de ces fameux biens d'expérience où on ne sait pas ce qui vous apporte comme utilité avant de les avoir utilisés. Ça vaut aussi pour le film, ça vaut aussi pour tout le spectacle. Donc économie de contenu, économie de l'incertitude, donc économie du risque. Et c'est pas pour rien que j'ai évoqué l'articulation des risques dans la filière. Et c'est aussi une économie du succès. Pourquoi ? Parce que, inévitablement, quand le succès arrive, alors ça garde toujours, d'une part, un caractère un peu imprévu, sinon miraculeux, quelles que soient les ressources et les raffinements du marketing, dans certains cas. Et aussi, c'est parce que le succès, quand il arrive, est extrêmement rentable. Puisque, compte tenu de l'aspect industriel du livre, ça permet effectivement d'exploiter le succès au maximum, en tirant et en retirant. C'était le premier point de conclusion que je voulais évoquer. Deuxième point, on est autour d'une fonction éditoriale qui est plus largement présente dans l'ensemble des secteurs d'industrie culturelle. Et je voudrais simplement en évoquer deux aspects. C'est d'abord que l'éditeur, tout celui qui est dans le cadre d'une fonction éditoriale, c'est toujours quelqu'un qui à la fois se pose simultanément la question de qu'est-ce qu'attend le public, qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de publier, et de l'autre côté, quels seraient les livres, quels seraient les ouvrages à mettre sur le marché, à concevoir et à mettre sur le marché. D'une part, c'est aussi de la part des éditeurs une double maîtrise. D'abord, un éditeur, ça à la fois, c'est la prise de risque de la multiplication des ouvrages, mais aussi en même temps et simultanément la maîtrise, le dernier mot sur le contenu, sur le bon à tirer. Et ça. Cette notion de bon à tirer, vous la retrouvez avec des termes différents dans toutes les autres industries culturelles parce que c'est le fondement du rapport entre de la responsabilité éditoriale. Et puis, j'insiste sur le fait qu'effectivement, il y a un dialogue complexe qui s'établit entre l'édition et la création. On a trop souvent la vision d'une création autonome, d'auteur qui ne trouverait que chez les éditeurs une capacité à éditer et à multiplier leurs livres, alors que les relations entre les éditeurs et ceux qui contribuent à faire les livres, au contenu des livres, sont beaucoup plus complexes et subtiles que ça. Allant de la commande éditoriale, allant parfois jusqu'à la commande éditoriale à des livres d'éditeurs, au sens où l'idée est venue de l'éditeur au départ, qui après a cherché les moyens de la mettre en musique. Et puis, peut-être, pour avancer, deux aspects aussi importants, un aspect très micro, c'est que on est en matière de livres, on est dans un espace où, du fait que le livre est peu coûteux, un espace où les livres sont extrêmement nombreux. Hein, je vous rappelle, l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de milliers. Le nombre de livres produits par an, c'est plutôt de l'ordre de, estimation élègue, 60-65 000 titres nouveaux par an. Bon. Ceci veut dire qu'il y a des possibilités de mutualisation et de péréquation extrêmement nombreuses concernant les livres du fait de leur multiplicité et de leur grande différence. Et je voudrais insister sur le fait que, effectivement, au cœur de la démarche éditoriale, pas obligatoire, mais je crois très pertinente, figure la péréquation. C'est-à-dire l'idée que on peut, grâce à des productions moins risquées ou déjà amorties, etc., on peut prendre des risques sur d'autres. Donc une démarche de péréquation qui n'a rien à voir avec constater la compensation à la péréquation. C'est une démarche qui est a priori, hein, et qui n'a rien à voir avec le constat a posteriori de la compensation, c'est-à-dire que ce qui marche a contribué à éponger pour ce qui ne marchait pas. Ça paraît une redoutable banalité comptable. Je voulais insister sur cet aspect-là et dire aussi que les possibilités de péréquation et de mutualisation sont dans beaucoup d'endroits. Par exemple, si un distributeur lisse ne fait pas payer à tous les livres le coût exact qu'il occasionne pour lui, alors il fait de la péréquation et de la mutualisation entre les livres, et qui fait en sorte que ceux qui se vendent par palette, disons, contribuent à payer pour ceux qui se vendent plus lentement et sur une plus longue durée. Dans une fonction aussi technique, hein, que la distribution, en fonction des tarifs fixés, eh bien, il peut y avoir des réelles possibilités de mutualisation et de péréquation entre les livres. Et c'est non négligeable. Et certaines grandes maisons de grands distributeurs le font explicitement. Voilà. Et puis, dernier aspect de cette conclusion, un aspect plus macro, c'est que le jeu qui se joue entre les éditeurs, il implique deux types c'est celui que l'on appelle, dans le jargon de ceux qui travaillent sur l'économie des industries culturelles, c'est le fameux modèle de l'oligopole à franges. Alors l'oligopole à franges, ça veut dire que tout simplement il n'y a qu'un petit nombre de grosses entreprises, de grandes maisons d'édition, grands groupes, et à côté une myriade de petites maisons qui constituent cette frange, et qui est un lieu particulièrement porté à l'innovation, pour tout un tas de raisons, parce que c'est un lieu de renouvellement démographique, donc des nouveaux éditeurs qui amènent un ton nouveau, qui amènent une manière nouvelle de concevoir le métier, etc., et voir des auteurs nouveaux, c'est évidemment porteur d'innovation. Sans sombrer dans un Smiol is beautiful qui a guère de pertinence, c'est vrai que la frange éditoriale, cette frange éditoriale, est un lieu privilégié d'innovation. compensée par le fait que c'est un lieu de mortalité démographique absolument galopante aussi. Les quelques études qui ont été que j'ai pu être amené à faire là-dessus l'ont montré. Simplement pour dire que en termes de, là encore, d'économie politique du livre, hein, et de diffusion de l'innovation, eh bien, il y a certainement un enjeu auquel on ne pense pas assez, qui est que comment répondre à la question suivante, comment l'innovation qui vient souvent sur la frange, aux marges, comment percole-t-elle, se diffuse-t-elle dans l'ensemble des autres maisons, en particulier des grands groupes, qui font l'alimentation, le plus lourd de l'alimentation de nos concitoyens en livres et en produits d'édition. Là, il y a une question de, j'appellerais, d'écologie de l'innovation, hein, qui mérite d'être posée et qui mérite d'être à l'agenda des politiques publiques. J'avance pour aborder maintenant ce que j'appellerais l'ère de la filière, c'est-à-dire quelle orientation est là, vers quoi va-t-elle. L'ère disant que c'est pas une trajectoire absolument implacable et que c'est pas non plus la diagonale du fou, hein. C'est quelque chose entre les deux, c'est le fruit d'une démarche, des démarches individuelles et des logiques collectives. Que voit-on depuis longtemps, depuis des décennies maintenant? J'ai rassemblé en un certain nombre, en quelques propositions. La première, c'est la financiarisation accrue. Ça, c'est très clair. Et même la fameuse brèche de 2004 a ouvert les choses, puisque l'essai de reprise de Vivendi, de VUP par Hachette, par Lagardère plus exactement, a donné lieu ensuite à toute une accélération du mouvement de financiarisation et de reprise et de concentration. Ça a d'abord été le seuil chez La Martinière, c'est maintenant, aujourd'hui, après les avatars d'Editis, c'est le rapprochement de Flammarion et de Gallimard, et qui ne peut se faire que dans une logique financière, avec l'appui évidemment de groupes financiers. C'est le deuxième phénomène, c'est très clairement une production sans cesse croissante, ça ne se dément pas depuis des décennies. Simultanément, il y a eu dans un premier temps une baisse du tirage qui était quand même un petit peu étonnante et paradoxale pour une industrie culturelle, parce que c'est quand même le fondement que de multiplier les exemplaires. Maintenant, cette baisse des tirages, elle semble quelque peu stabilisée. Néanmoins, ce que l'on observe, c'est que les ventes moyennes sont néanmoins faibles, voire à la baisse, et que les temps de valorisation des ouvrages, en particulier en librairie, restent limités. L'ordre de grandeur, c'est en nombre de semaines, c'est pas en nombre de mois, c'est plutôt maintenant en nombre de semaines. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que dans les mesures proposées par l'édition, enfin par l'édition pour soutenir la librairie, eh bien, à côté des mesures directement sur les taux de remise, les mesures pour aider à ce que les ouvrages restent en fonds chez les libraires tiennent une place non négligeable. Alors, quand on rassemble tout ça, on se demande évidemment quelle est l'efficacité du système. Un système qui produit un nombre d'ouvrages de plus en plus important, mais qui, semble-t-il, peut à peiner à les faire prendre en charge, promotionner et atteindre leur public potentiel dans de bonnes conditions. D'autant que dans le même temps, effectivement, le chiffre d'affaires global, il est stable. Il est stagnant depuis plusieurs années, voire en décroissance. Donc, ça veut dire que ça sature les contraintes, ça limite les possibilités aussi d'économie d'échelle. Donc, on voit bien qu'on est dans une configuration que on peut considérer comme difficilement soutenable, hein, et qui peut donner lieu, d'une part, sur le plan de l'analyse, à des diagnostics de surproduction. Moi, je ne le fais pas parce que je ne pense pas avoir la légitimité pour le faire, mais je peux tout à fait comprendre que des libraires le fassent en disant qu'il y a trop de livres qui ne font pas, qui ne méritent pas, hein, qui ne s'imposent pas. D'une part, ça, et puis d'autre part, il y a effectivement une menace souvent brandie et qui ne s'est jamais véritablement concrétisée, qui est celle d'un découplage entre une petite édition consacrée à ce qui serait les ouvrages les plus de recherche, les plus exigeants, etc., et puis une grande édition de grosse cavalerie. Je caricature, hein, mais ce risque-là est pointé, lui aussi, depuis des décennies et des décennies. Ça tient, je crois que ce modèle-là tient, beaucoup, beaucoup sur le fait que sa terrible inefficacité, enfin les limites, terribles limites de son efficacité, sont compensées par un effort réitéré des professionnels. Ça tire, je pense, énormément sur les professionnels et dans l'édition et dans la librairie, et c'est pas étonnant dans ces économies d'industrie culturelle qui sont toutes des économies passionnées où le rôle des individus est essentiel. Mais on peut tout à fait considérer qu'on est dans une logique d'insoutenabilité que de cette production sans cesse croissante. Et c'est là où l'arrivée, la montée en puissance de la révolution numérique, les multiples impacts du numérique, contribuent à un petit peu modifier la donne de cette insoutenabilité. Alors, je vous propose pour terminer de voir quels sont les impacts, les multiples impacts du numérique, chances et bouleversements, pharmacon, comme dirait Bernard Stiegler. D'abord, insister, je vais le passer en vue très rapidement en me focalisant sur les plus importants. Insister d'abord sur le fait que la révolution, le numérique, l'impact du numérique sur le livre, c'est pas le livre numérique ou le livre numérisé. C'est d'abord la révolution de la numérisation elle-même. C'est beaucoup plus vaste, hein, et c'est beaucoup plus ancien, hein. Et le premier élément qui est souvent passé sous silence, dont on n'a pas beaucoup parlé, hors des milieux professionnels bien sûr, c'est la révolution du prêt-presse qui a fait que, effectivement, bon, tous les circuits entre toute la circulation des épreuves, etc., a été complètement modifiée à ce niveau-là, avec des conséquences importantes, des réductions de coûts, bien sûr, dont on peut se demander à quoi ils ont servi. Mais ça demanderait des recherches beaucoup plus précises. Ça aboutit à des réductions aussi de seuils. Maintenant, les tirages minimaux ont beaucoup, beaucoup baissé, hein, et ça a été un facteur à la fois d'explosion de l'autoproduction, mais aussi d'explosion des essais, en particulier en matière d'illustration ou de maquette. Il est effectivement aujourd'hui beaucoup plus facile d'essayer de tenter des choses, et on se trouve un petit peu comme dans les modes d'expression qui naissent. Hein. Vous regardez les films, comment on les faisait au début du parlant, au début du muet, eh bien effectivement, il y a une explosion de esthétique à ce moment-là, formelle à ce moment-là. Ben, on retrouve un peu quelque chose de cet ordre-là. Ce que je voulais souligner après, c'est que les livres sont très inégaux devant le numérique. À savoir qu'il y en a du côté des livres scientifiques en particulier, ou juridiques, des encyclopédies qui sont depuis longtemps passées sans tambour ni trompette du côté du numérique, plutôt offline, alors que d'autres y sont très très peu passés et que d'autres hésitent et sont partagés au sens propre du terme. Je pense aux guides. Au guide touristique, par exemple, on voit bien qu'il y a une partie d'information qui a tout à fait sa place sur un smartphone ou sur un smartphone, et puis toute une partie qui peut rester sous une forme, éventuellement sous une forme papier. Autres aspects importants, c'est que, mais je ne vais pas insister pour ne pas être trop long, c'est qu'il y a toute une nouvelle économie de l'information au sein de la filière. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas pour rien que les professionnels mettent l'accent sur le fait qu'il y a un quatrième flux. Hein, à côté du flux des ouvrages, du flux des règlements financiers, du flux de l'information sur les livres, il y a maintenant le flux d'information sur les ventes elles-mêmes. Hein, et que dans ces conditions, là, il y a toute une matière à travailler. C'est un peu l'amorce de ce qu'aujourd'hui on appellerait des big data, des données qui sont effectivement importantes que possèdent les distributeurs et sur lesquelles il y a une sorte de compétition entre distributeurs et diffuseurs pour les exploiter et en tirer des éléments de marketing, voire de préconisation pour l'éditeur. Autre phénomène important, les deux phénomènes importants. Et là, maintenant, je les mets clairement en évidence par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette espèce d'insoutenabilité de l'ère de la filière. C'est d'une part que sont apparues nouvelles perspectives de promotion, avec des sites d'éditeurs, bien sûr, des sites d'auteurs, voire sites d'ouvrages, des possibilités de présence sur les réseaux sociaux des uns ou des autres, des blogs de lecteurs, etc., sans vouloir être béat devant la moindre innovation en la matière, il faut reconnaître qu'il y a là des germes possibles d'autres manières de dialoguer avec l'audience potentielle, avec la clientèle potentielle, les lecteurs, et de nouvelles possibilités de travail promotionnel pour les éditeurs qui vient desserrer un peu la contrainte sur la deuxième ressource rare, la seconde ressource rare que j'évoquais, c'est-à-dire l'espace pour parler et promouvoir les livres. Et puis, enfin et surtout, il y a le phénomène central qui est la montée de la vente en ligne. Alors, elle est centrale pourquoi ? C'est bien autre chose qu'une forme modernisée de la vente à distance, hein, suivant la vente par la poste, la vente par Minitel, la vente, etc., ou par téléphone. C'est bien autre chose. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que la vente en ligne, elle met l'accent sur l'exhaustivité, sur la multiplicité des livres, et elle tutoie tout de suite l'exhaustivité. Donc ça veut dire qu'elle est tout de suite sur le point fort de la librairie et de la grande librairie. Elle est en contradiction et en opposition avec elle, en compétition avec elle. Et enfin, deuxième point, c'est que la vente en ligne, ça commence, ça monte, vous pouvez l'observer comme moi, ça monte en étant aujourd'hui la nouvelle référence commerciale. Ce qui est maintenant la référence commerciale n'est plus l'hyper. Hein, ce modèle-là, je pense, il est en train de, sans vouloir plagier Philippe Moati, c'est fini, l'hyper, je crois, comme modèle. Hein, ce qui va être le modèle, c'est plutôt le commerce connecté, c'est-à-dire la capacité à la fois de marier ce que vous trouvez en ligne et ce que vous trouvez en magasin. dans, le monde, dans, dans les magasins physiques. Et ça va être ça la norme, en ajoutant de plus que la vente en ligne, c'est un cheval de Troie pour l'implantation de gros acteurs étrangers à la filière, à commencer par Amazon, mais suivi par Google, etc. Et enfin, c'est la pierre d'attente pour le développement du livre numérique, puisque le livre numérique sera évidemment vendu en ligne. Enfin, essentiellement vendu en ligne. Et ceci, vos réponses, en partie, alors, bonne ou mauvaise réponse, hein, mais vos, en partie, réponses à la à l'insoutenabilité que j'évoquais tout à l'heure et à l'augmentation continue du nombre d'ouvrages et à ce défi de pouvoir les valoriser tous, puisque effectivement la vente en ligne est un moyen, par les effets longue traîne que vous connaissez comme moi, effectivement de pouvoir donner une meilleure visibilité à des ouvrages de petite vente et à des ouvrages de niche. Même si en même temps, la vente en ligne est un moyen pour renforcer la place des best-sellers. Voilà. Donc, voilà l'impact, me semble-t-il, les impacts du numérique. J'avais mentionné l'irruption des nouveaux acteurs parce que ça ne se limite pas à ceux de la vente en ligne. Hein. C'est aussi, bien sûr, dès maintenant, Google, Apple et Facebook, mais j'y reviens pas. Et puis, ce que je voudrais signaler, c'est que y a une difficile émergence du livre numérisé. Hein. C'est quand même assez paradoxal. La filière du livre, faut le dire, je crois, se trouve relativement perplexe devant le développement du livre numérisé. D'abord parce que qu'est-ce que c'est que le livre numérisé, sinon cette espèce de produit intermédiaire dont on servait dans le cadre du pré-presse, c'est pas autre chose. Hein, hein. Que d'autre part, autre point peu mentionné, c'est que les grands éditeurs sont tout à fait perplexes devant, quoi qu'ils en disent, devant le livre numérisé. Pourquoi ? Parce que développement du livre numérisé signifie, même si tout n'est pas aussi mécaniste que ça, que le chiffre d'affaires du livre papier va diminuer sur un marché qu'on peut considérer globalement comme étal. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un domaine où effectivement la vente, la distribution est le point fort et le point de rentabilité maximal pour les grands groupes, ça veut dire qu'on va être dans des démarches de réduction de chiffre d'affaires. Donc, alors que les augmentations de chiffre d'affaires généraient des économies d'échelle, hein, eh bien, les réductions de chiffre d'affaires provoqueront symétriquement des économies d'échelle, donc renchériront les services des distributeurs, donc les rendront plus coûteux et mettront en péril, disons, ne seront pas favorables à la rentabilité des grandes structures de distribution. Et c'est un fait, c'est un point que les éditeurs, que les groupes évidemment n'évoquent jamais, mais qui pèse suffisamment lourd pour que les grands éditeurs s'y hâtent tout à fait lentement. Il y a un point qui est évident, qui est la différence en la matière entre Hachette en France et Hachette aux États-Unis en particulier, Hachette dans le monde. Alors qu'on pourrait penser qu'il pourrait tirer parti du savoir de ses filiales américaines pour tirer parti de cela pour avoir une position en flèche, en pointe sur le livre numérique numérisé en France, c'est évidemment pas le cas. Enfin, dernier point sur la difficile émergence du livre numérique, sans vouloir me montrer trop négatif aussi, c'est que la vraie direction à long terme, c'est le livre numérique au sens de ce qu'on appelle livre enrichi. Seulement, là, c'est une autre économie que celle du livre papier. On n'est plus à se demander si ça coûte cher ou pas de numériser un livre papier. Là, c'est concevoir un autre produit qui relève d'un autre mode d'expression qui est en train de se chercher. Parce qu'un vrai livre enrichi, enfin, un vrai livre numérique, c'est quelque chose qui relève d'un mode d'expression qui tire parti à la fois, bien sûr, de l'écrit, mais aussi de l'image fixe, de l'image animée, du son. Et tout ça, correctement rassemblé. C'est loin d'être évident, et ça représente des coûts aussi, des niveaux de coûts qui ne sont pas ceux des livres, ni du livre papier, ni du livre numérisé. Et qui rappellent un petit peu ce que l'on a vu comme l'échec des éditeurs, enfin, disons, le peu d'avancée des éditeurs en matière d'audiovisuel il y a 20, 25 ans. Je ne dis pas que c'est des coûts de l'audiovisuel pour le livre enrichi, mais c'est des coûts qui sont sensiblement plus élevés que le livre papier et le livre numérisé. Voilà. Et puis, bien sûr, le numérique, l'impact du numérique, c'est aussi, des nouveaux enjeux de régulation pour la puissance publique, à commencer évidemment pour la question du prix, mais aussi la question de nouvelles relations avec les auteurs, reposées à cette occasion-là, ou la question qui nouvelle des indisponibles. Pour terminer, véritablement pour terminer, si on peut parler d'une filière du livre en danger, non pas du livre en danger, ça j'y crois pas, enfin on peut faire beaucoup de débats et beaucoup de choses sur le livre en danger, mais c'est un marronnier qui me paraît inusable, et qui refleurira, reverdira régulièrement. Par contre, si on peut se demander si la filière du livre, telle qu'elle existe aujourd'hui, est en danger, je dirais qu'elle est au moins mise en question. Alors, mise en question plusieurs points de vue, parce que ces acteurs le sont, au travers de la mutation de leurs fonctions. C'est vrai pour la librairie, qui est depuis longtemps effectivement perçue comme le maillon faible de la chaîne, qui affronte des pertes de chiffre d'affaires par rapport à la vente en ligne, qui, pour qui le passage au numérique, soit à la vente en ligne, soit à la vente du livre numérique, n'est pas si simple que ça. Il y a vraiment des difficultés à la fois financières, mais aussi culturelles à y passer, à concevoir ce qu'il faut faire, comment être dans l'univers numérique de manière pertinente pour un libraire, c'est pas évident. Mais néanmoins, les libraires restent ceux qui peuvent être l'épaule de ce que j'appellerais l'économie présentielle du livre, avec les bibliothèques d'ailleurs, des pots de l'économie présentielle du livre. C'est vrai aussi des éditeurs qui voient leurs fonctions, qui peuvent leur champ d'activité, leur rôle, à la fois contesté par l'autoproduction, voire un jour par des remontées de l'aval, et je vais en parler, et qui surtout en termes de fonctions peuvent hésiter entre que doivent-ils devenir. Des community managers, des sites thématiques. Qu'est-ce que doit être un éditeur demain ? La solution, l'une des perspectives, c'est vraisemblablement aussi de réapprofondir la relation avec les auteurs et avec les capacités de création et d'écriture. Ça me paraît être la première remise en cause, la remise en question des acteurs au travers de leurs fonctions. Surtout quand apparaissent de gros acteurs mondiaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est qu'il y a une remise en cause de la filière, à la fois comme concept d'analyse et cadre d'action. Cadre d'action, on a bien vu que la filière a sa logique à mon aval, mais de plus, elle est confortée, cette logique à Mont-Aval, par le fait qu'on est dans une économie où, effectivement, du fait qu'on est dans les produits de contenu, etc., il y a des... on est dans une économie de l'offre, hein, au sens où c'est l'offre qui crée la demande dans une certaine mesure. Je ne vais pas réinsister là-dessus, mais vous connaissez à la fois la pertinence et la limite de cette perspective. Or, ce que provoque le numérique, c'est certainement une approche plus dialogante entre l'offre et la demande. Et peut-être aussi un jour, une capacité de préconisation chez les grands acteurs de la vente en ligne qui, un jour, peut-être remontera vers l'amont et vers définition des contenus. Jusqu'ici, ça a été un peu une peur agitée à plusieurs reprises, qu'on n'a jamais vu se concrétiser de réelle remontée de l'aval vers l'amont, c'est pas du tout sûr que, avec la puissance que pourront acquérir en matière de travail des données, des big data de la part et de Google et d'Amazon et d'autres, qu'il n'y ait pas effectivement cette tendance à effectivement de remonter de l'aval vers l'amont. Ça, c'est pour l'aspect cadre d'action de la filière. Comme concept d'analyse, eh bien, ce qui se passe, la filière aujourd'hui, elle est poreuse. Pourquoi ? Parce que vous pouvez y entrer par n'importe où. Je m'explique. Vous trouvez dans un magazine la référence d'un ouvrage, éventuellement avec un flash code ou avec ou avec l'adresse internet, eh bien, vous pouvez basculer tout de suite sur un site de vente de l'ouvrage. Donc, vous pouvez rentrer dans la filière par beaucoup d'endroits. De plus, la filière, c'est ça, autant dans la filière, dans la conception ancienne, traditionnelle de la filière, on voit bien les acteurs les uns à la suite des autres, on voit bien comment diffusion et distribution peuvent être considérés comme faisant obstacle aux relations entre éditeurs et libraires. Mais dans un univers numérique, on voit bien comment dans la filière, tous les acteurs sont à un ou deux clics de distance. Donc je dirais que la métrique, c'est plus la même. Et les relations sont plus la même. De même que les différences entre marché professionnel et marché consommateur sont aussi brouillées. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est depuis l'avènement du numérique qu'on remet l'accent aussi fortement sur le B2B ou le B2C, hein, alors que les choses paraissaient évidentes auparavant. Voilà. Et est-ce que la filière reste le bon cadre d'analyse alors qu'on se trouve devant une économie qui est beaucoup plus une économie de plateforme ? Les distributeurs étant un exemple parfait de plateforme. Quatrième remise en cause, c'est ce que j'appellerais celle de l'unité du livre, comme j'ai mis contexte de représentation. On parle très facilement du livre, nonobstant la prodigieuse diversité des catégories d'ouvrages et l'extrême diversité, hétérogénéité des livres. Hein ? Est-ce que ça veut dire que on pourra toujours parler d'une filière, ou alors est-ce qu'il faut parler d'un ensemble de sous-filières ? Bon, vous voyez toutes ces questions qui sont posées, et il est clair que le numérique... En ayant institué un passage très variable et très différencié des livres existants par catégorie vers le numérique, eh bien, change les choses et contribue à faire un peu plus éclater la notion, un peu plus malmenée, la notion du livre en tant que tel. Ce qui, inversement, peut-être peut rendre plus pertinent et plus important les espaces où peuvent se donner à voir la diversité des livres, de l'ensemble des livres. Et je pense bien sûr là aux librairies et bien sûr aux bibliothèques. Voilà. Et puis, on peut penser aussi, et c'est pour ça que je l'ai évoqué au début, que le mode d'expression par le livre peut être, comme cadre alors systémique d'acculturation, de régulation, va pouvoir, risque aussi, lui, également, d'être remis en cause, ne serait-ce que par la multiplicité des types de terminaux. Parce qu'on voit bien quand même, si on raisonne en termes de potentialité techno-esthétique, on voit bien qu'on ne fait pas la même chose sur une liseuse ou sur un smartphone ou sur une tablette. Donc, il y a des possibilités différentes, quels que soient par ailleurs les souhaits d'interopérabilité ou de portabilité. Voilà donc ces ensembles de remises en question, je dirais, à la fois du modèle de fonctionnement des acteurs, des fonctions du livre, des acteurs du livre, de l'unité du livre, mais aussi des concepts un peu fondamentaux de filière et de mode d'expression, et qui justifient pour moi le titre d'une filière en danger, avec bien sûr un point d'interrogation. Pour conclure, deux orientations, me semble-t-il, du côté des professions du livre, c'est-à-dire des libraires et des éditeurs. On voit bien, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, que les libraires ont une position centrale à se construire dans l'économie présentielle du livre. Paradoxalement, je pense que plus on ira vers les progrès de la dématérialisation du livre, renforceront le souhait et le besoin de sa rematérialisation. Et le terme, d'ailleurs, commence à émerger. Donc, les libraires ont une place à se construire là, dans l'économie présentielle du livre, qui permet, autour du livre, numérique ou papier, de rencontrer les vrais gens, comme dirait Olivier Donat. Et puis, du côté des éditeurs, je pense que beaucoup de choses passent dans le renforcement de la relation avec les capacités de création et les capacités de mise au de conception et de mise au point de nouveaux contenus, qui soient des unités d'attention dans une économie de l'attention, et qui soient autre chose que des données à faire circuler et à rentabiliser au travers de leur trafic. Ceci suppose certainement une capacité et une volonté de ces professions en accru, et qu'on n'a jamais vu jusqu'ici se manifester aussi fortement dans des capacités de mutualisation et de solidarité interprofessionnelle. Voilà, mais je pense que ça ne peut être que normal dans une économie passionnée de renvoyer en dernier mot la responsabilité et les orientations de l'avenir aux professionnels, puisque tous ces secteurs-là sont des secteurs où c'est un jeu compliqué entre les logiques et les hommes peuvent avoir un jour le dernier mot. Merci.